un produit qui marche, 95 clients sur 100, ils sont censés te dire oui. Quand tu as trouvé ton product market fit, tu le sens.
Ils fondent Swile en 2018, une carte et application novatrice qui regroupe pour les employés titres restaurants, cartes cadeaux, avantages mobilité et chèques vacances. En 2021, l'entreprise atteint 850 millions d'euros de volume d'affaires, 900 000 utilisateurs et 750 employés en étant disponible en France et au Brésil. La même année, Swile devient la 19e licorne française. Mais pourtant, rien ne présageait un tel succès.
J'ai lancé une plateforme de commandes groupées digitale, alors même que moyen de paiement, non seulement c'est du ticket resto, mais en plus c'est du papier, ça peut pas le faire quoi, c'est pas possible.
Découvre tous les outils pour booster la performance de ton entreprise.
Il y a une grosse partie de la performance qui est liée à ton organisation. On a la fâcheuse tendance à vouloir recruter pour résoudre un problème, alors même que ce problème à la base, il pourrait être résolu de manière organisationnelle.
En pleine hypercroissance, il va devoir revoir toute sa stratégie d'entreprise.
Espèce de problème d'organisation de fou quoi. Et en fait ça frustre tout le monde, t'arrives même plus à voir les fruits de ton travail et c'est là où on a fait des erreurs clés.
Apprends à gérer ta croissance pour obtenir une place de leader et générer des perspectives d'évolution dans ton business.
Il faut vraiment s'assurer qu'on est tous non seulement dans le même bateau, mais à ramer exactement dans le même sens quoi. On vivra bien la croissance ensemble parce qu'en fait on vise exactement la même chose, on veut le faire de la même façon.
Un de ses objectifs, créer une cohésion d'équipe parfaite.
Je veux faire une clean sheet, un truc... Parfait, la vraie excellence, c'est là.
Dans cet épisode, découvre comment choisir son marché, trouver son product market fit, développer une culture d'entreprise, créer une culture de feedback et comment manager et organiser ses équipes.
Si je te dis entreprise, restauration et système de paiement, tu penses directement à ticket restaurant, n'est-ce pas? Est-il alors possible de révolutionner un marché où une norme est aussi ancrée depuis 50 ans?
C'est ce que notre invité du jour a cru possible d'entreprendre en prenant un pari risqué. Nous sommes avec Loïc Soubéran, fondateur et CEO de Swile. À 35 ans, il cumule déjà deux success stories à son actif, c'est juste dingue. Créée en 2018, l'entreprise a pour mission de créer un monde du travail épanouissant en proposant une carte regroupant tous les avantages des salariés. Titre restaurant, carte cadeau, avantages mobilité et chèques vacances. Implantée en France et au Brésil, l'entreprise compte plus de 700 employés et 900 000 utilisateurs. En 3 ans, ils deviennent l'un des pionniers de la dématérialisation des tickets restaurants. Ils réussissent à conquérir 13% de parts d'un marché ultra concurrencé par 4 grands acteurs présents depuis 50 ans. En 2021, Swile lève 200 millions de dollars et devient la 19e licorne française. Avant de lancer Swile, Loïc avait cofondé Tids en 2010, devenu leader mondial de la vidéo publicitaire sur Internet. Avec plus de 1,4 milliard d'utilisateurs mondiaux par mois, dont 47 millions d'utilisateurs uniques en France. Ce n'est plus un secret pour toi. Chez Paradox, on aime l'ambition et la performance, et avec Loïc, on est servi. Dans cet épisode, on parle de comment donner la possibilité aux RH de se réinventer pour créer une expérience salariale épanouissante, de l'efficacité de créer une culture de feedback en interne, mais aussi de comment trouver ton marché et capitaliser sur ta force en tant que startup. Loïc te partage sa stratégie pour passer ton produit ou service à un autre niveau dans ton business en respectant un élément essentiel qui a été l'une des clés de son succès. Tu l'auras compris, cet épisode est précieux et ultra inspirant. Si tu fais partie des entrepreneurs voulant passer un cap dans son business, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue, tu écoutes Business Tribe.
On va tous déjeuner, mais on a tous marre de faire 15 minutes de queue. Quand on a envie de commander sur les plateformes de livraison, on est obligé de demander aux uns aux autres ce qu'ils veulent commander, de faire l'avance de paiement, etc. Là, on simplifie complètement l'expérience de déjeuner en équipe, où il y a une personne qui lance une commande groupée, tout le monde le rejoint, chacun peut choisir ce qu'il veut ou pas, chacun paye de son côté. Et une fois que le groupe est constitué, ça part au restaurant et on n'a plus qu'à aller le chercher. Le tout premier restaurant où moi j'avais l'habitude d'aller, quand je lui dis écoute voilà, il faut absolument que tu rentres sur cette plateforme, il dit oui carrément on y va, mais juste une question, est-ce qu'ils vont pouvoir payer un ticket restaurant? Moi je suis un restaurant ouvert que le midi et 70% de mon chiffre je le fais en ticket restaurant. Là il faudrait être sourd pour pas l'entendre, quand on te dit que 70% de ton chiffre il est fait avec un moyen de paiement que t'es pas prêt à gérer, tu te dis que ta plateforme, même si c'est la meilleure du monde, si les gens ils peuvent pas payer avec l'argent qu'ils ont, ça peut pas le faire quoi, c'est pas possible. Forcément, énorme warning, qu'est-ce que c'est le marché des tickets resto en tant qu'entrepreneur? T'es face à un marché oligopolistique où t'as 4 acteurs qui se partagent le marché depuis 50 ans, et pire que ça, 90% du marché, on découvre qu'il est en papier. Lancer une plateforme de commandes groupées digitale, alors même que le moyen de paiement, non seulement c'est du ticket resto, mais en plus c'est du papier, là ça commence à devenir vraiment compliqué. Les gens sont en attente quand même de la dématérialisation. Il est hors de question qu'on continue à avoir un carnet de chèques dans la poche. Et en fait, la vraie opportunité, c'est de se dire, bah ok, mais en fait, on va aller attaquer le marché des tickets resto. Il y a encore beaucoup de marchés existants qui sont énormes et qui demandent juste à être un petit peu challengés, renouvelés et embrasser vraiment l'ère de la dématérialisation ou de la digitalisation de manière générale.
Loïc, si tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours.
Je suis le fondateur et CEO de Swile. J'ai 35 ans, je suis montpelliérain, mais je passe ma vie entre Montpellier et Paris pour développer la belle aventure. Et maintenant, d'ailleurs, le Brésil. Avant Swile, j'ai eu la chance, à la sortie de mes études, de monter une première société qui s'appelle Tids, qui s'est bien vendue au groupe Altis et qui continue à bien croître.
Tu contribues? Tu fais des choses avec eux?
Non, on est deux ou trois à être sortis complètement. Certains managers sont restés et ils ont continué à hyper bien développer la boîte.
Et ça te fait quoi de dire que tu as contribué à cette aventure et de voir le bébé grandir?
C'est plus qu'une fierté. Au moment où on a vendu, c'était unanime, hein, on était persuadé que c'était le bon moment de vendre. L'histoire nous donne raison ou pas, mais en tout cas, le moment où on a vendu, on était persuadé d'être face à des mastodontes comme Google, Facebook.
Donne-nous un peu de contexte sur Tids, ce que vous faisiez.
C'est le leader mondial de la vidéo publicitaire sur Internet. On est les premiers à avoir inventé le fait de monétiser des contenus non vidéo avec de la vidéo publicitaire. Donc quand vous êtes typiquement sur un article de presse, sur Le Monde, L'Équipe, Le Figaro, etc. Quand vous voyez une vidéo publicitaire entre deux paragraphes d'un article, en fait, 99% de chances que ça soit Tids, qu'il soit derrière. Et en fait, ce concept-là, on a su l'exporter de manière mondiale en quelques années, puisque là, aujourd'hui, on parle de, quand même de plus de 25 pays et tous les éditeurs de la planète. Donc Tids, aujourd'hui, c'est 1,4 milliard de personnes touchées par mois.
C'est ouf.
C'est assez fou. C'était le bon moment de vendre. On a vendu et du coup, j'ai pris une semaine de vacances et je me suis relancé dans l'aventure Swile.
Et comment t'as trouvé Swile?
Swile, déjà,
c'est très différent comme marché. Hein.
Ça n'a rien à voir, effectivement. Mais je crois que c'est un peu finalement le propre des entrepreneurs de prendre une industrie, d'essayer de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, finalement.
Tu dis un truc dans un podcast. Finalement, la chance dans l'entrepreneuriat, c'est déjà bien choisir son marché. Et j'aimerais justement qu'on creuse ça parce que tu as, entre guillemets, bien choisi ton marché pour Tids, bien choisi ton marché pour Swile. Ça veut dire quoi, bien choisir son marché? C'est quoi ton framework?
Déjà, c'est la profondeur de jeu du marché, donc la puissance même du marché en tant que tel. Est-ce que, tu vois, typiquement Tids, on parle du marché de la vidéo, de la publicité au sens global.
Et t'as quel âge quand tu démarres Tids?
23 ans.
Donc à 23 ans, tu te dis, un des critères pour rentrer,
ah oui.
Faut que le marché soit international ou juste gros?
Non, international, du coup. Nous, l'ambition qu'on avait chez Tids, c'était de monter une boîte globale, et là, chez Swile, c'est la même. Systématiquement, c'est viser le marché le plus gros possible, de base.
En dessous de quelle valeur du marché, tu te dis même pas?
Plusieurs centaines de milliards.
Ok, donc si c'est à 5 milliards, tu dis, oula, trop petit.
Ah oui, oui. Oui, si tu veux monter une boîte à minima 10 milliards, déjà,
t'es coincé, là.
T'es coincé, quoi. En tout cas, moi, mon framework, c'est pas de créer un marché, c'est d'aller attaquer un marché existant. Et il y a encore beaucoup de marchés existants qui sont énormes et qui demandent juste à être un petit peu challengés, renouvelés et embrasser vraiment l'ère de la dématérialisation ou de la digitalisation de manière générale, quoi. Nous, nos vrais concurrents, c'était la télé. En fait, tout simplement, puisqu'on était sur la vidéo publicitaire. Et là, on s'est attaqué à un sujet des avantages aux salariés de manière générale qui est aussi colossal.
Donc, taille du marché,
ouais.
Industrie plutôt vieillissante.
Exactement.
T'as d'autres choses qui rentrent dans ton équation?
Ça suffit. Ça suffit. Taille du marché, industrie un peu vieillissante et où tu vas capitaliser sur ta force, toi, en tant que start-up ou jeune pousse, à tout miser sur l'innovation.
Digital, forcément, pour toi?
Oui. Le mien de framework, en tout cas, oui. Il y a encore plein de poches hyper profondes à aller chercher. On le voit, il y a plein de start-up hyper sympas qui se lancent, qui sont en train d'aller attaquer des verticales vieillissantes, globales, et on peut largement se faire une place.
Et tiens, pour mieux comprendre comment ton cerveau fonctionne, toi, t'es dans Swile aujourd'hui, t'as investi dedans, en plus d'avoir 3 enfants pour en reparler. Pour bien préciser ma question, est-ce que identifier des opportunités comme ça, c'est un process actif pour toi, en mode, j'ai vendu Tids, je cherche quelque chose, ou en fait, régulièrement, tu te dis, si j'avais pas de boîte, là, je ferais quelque chose?
Je suis vraiment dans un process continu. Je suis pas en mode, tiens, je vais prendre 2 mois et je vais prendre l'air et puis j'espère qu'il y a un truc qui va tomber, en réfléchissant beaucoup et longtemps. Non, je crois que d'ailleurs, tous les moves un peu significatifs qu'il y a eu à la fois chez Tids ou chez Swile l'ont été non pas d'une réflexion, d'une introspection personnelle, mais au contraire de la discussion avec les uns et les autres. Et chez Tids, le format phare qui pèse aujourd'hui, encore aujourd'hui, 95% des revenus, ça a été le fruit d'une discussion avec des clients. C'est pas tombé du ciel comme ça.
Est-ce que tu as des questions que tu adores poser pour augmenter les chances que la matière arrive.
Alors c'est marrant parce que ça donne lieu à beaucoup de discussions avec des entrepreneurs, mais en fait, je pars du principe que le client, en fait, il a toujours raison. Alors quand je dis il a toujours raison, le client il a toujours raison dans le problème qui te remonte. Il n'a pas forcément raison sur comment le résoudre ou la solution, ou même parfois il va te proposer une solution qui est en fait peut-être un peu bancale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il a un problème, il va te le dire, et que ce problème-là, il faut chercher à le résoudre. Et il ne faut pas forcément écouter la manière dont il souhaite que tu le résolves, mais en tout cas, il faut que tu te concentres sur son problème.
Juste ça, c'est énorme, c'est une vraie pépite. Dans mon premier round d'interview de Business Impact, un des éléments qui ressort de manière assez impressionnante, c'est ce côté justement être à l'écoute du client. Mais du coup, tu peux vite basculer dans...
Tu fais ce qu'il dit.
Tu fais ce qu'il te dit. Et lui-même, c'est pas forcément ce qu'il veut ou ce qu'il a besoin.
Exactement.
Ou ce qu'il rachèterait.
Exactement.
Et là, c'est intéressant de dire, ok, je vais vraiment distinguer les propositions qu'il a qui peuvent être intéressantes,
ouais,
mais de son problème.
Il y a deux choses qui peuvent apparaître. C'est soit t'es pas dans l'écoute et tu es persuadé en tant qu'entrepreneur que t'as forcément raison. Et en fait, du coup, tu t'enfonces dans un truc et donc tu es hyper fier de la solution que tu as développée parce que tu es sûr de sauver le monde. Tu vas avoir un premier client, il te dit non. Tu vas avoir un deuxième client, il te dit non. Un troisième client, il te dit non, tu vois. À un moment donné, il faut écouter les portes qui se ferment, quoi. Donc, normalement, un produit qui marche, 95 clients sur 100, ils sont censés te dire oui, tu vois, grosso modo. Donc après, il peut y avoir un sujet de budget, why not. Mais fondamentalement, quand tu as trouvé ton product market fit,
ouais,
tu le sens. Il ne faut pas confondre la résilience et l'entêtement.
Ouais.
On dit souvent, non, mais il faut être hyper résilient. La vie des entrepreneurs, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut rien lâcher, lâche rien. Enfin, il y a quand même tous ces mots un peu très forts tout le temps qui sont là. Et malheureusement, le problème, c'est que ça peut parfois pousser à l'entêtement. C'est-à-dire que, ok, je prends une porte, j'en prends une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, j'écoute toujours pas, en fait. Et je me dis, peut-être que le millième, il va finir par dire oui.
Ça t'est arrivé ça ou pas, toi, de trop pousser?
Non, je crois vraiment avoir cette sensibilité de pas aller à l'encontre des problèmes des clients. J'ai jamais raison, en fait.
Mais ça sent dans ta personnalité. Ça m'étonne pas que tu sois capable d'entendre et de ressentir, d'écouter la personne.
Ouais. Malheureusement, j'ai vu des proches, hein, je les ai vraiment vus s'enfoncer dans de l'entêtement parce que incapable d'écouter le fait que c'est pas grave, en fait. Une première idée, c'est pas forcément la bonne, mais tu vas trouver, tu vas affiner et trouver le bon angle d'attaque. Toute la première phase de vie d'un projet, elle est dédiée qu'à trouver l'angle d'attaque. Le fameux product market fit, c'est exactement ça. C'est, en fait, on trouve un angle d'attaque. On affine, on propose un truc, on voit que ça marche pas trop, et c'est pas grave. Déjà, 99% du temps, ta première idée quand tu veux te lancer dans un projet, c'est pas l'idée finale, hein, de toute façon. Donc, t'as deux façons de voir. Soit tu acceptes d'entrée de jeu que tu sais très bien que ce sera pas la bonne idée, et ton entourage comprend aussi que c'est pas forcément la bonne idée, parce que très souvent, quand on parle aux entrepreneurs, en fait, ils ont lâché leur job. Hein, d'accord. Donc, ok, ils sont payés par Pôle emploi, ils ont 24 mois de sécurité pour faire le projet. Mais il faut utiliser ces 24 mois à hyper bon escient. Il faut pas se dire, tiens, pendant 24 mois, je vais pas bouger d'un iota et les clients, ils ont rien compris, ils ont pas compris ce que je voulais faire, quoi. Tu vois, ça marche pas comme ça. Il faut, dès le tout premier jour, aller très vite sur le terrain et se dire, peut-être qu'au bout de 24 mois, à force d'avoir fait des feedbacks, des allers-retours, etc., je vais trouver mon product market fit. Mais ça nécessite des mouvements permanents. Et le pire, c'est de rester immobile.
C'est peut-être le risque et peut-être ce qui fait peur à certains entrepreneurs dans le fait d'écouter. C'est qu'écouter, ça peut perturber. C'est-à-dire, ça peut déstabiliser et ça peut faire perdre sa certitude. Tiens, par exemple, on va prendre un exemple de bouquin. J'ai fait une interview qu'on n'a pas encore diffusée avec la co-auteure de Reed Hastings, fondateur de Netflix, sur son bouquin No Rules Rules. Et elle explique qu'à un moment donné, elle a pris tellement de retours, tellement de feedback, qu'elle est là en mode, je sais plus, en fait.
C'est un très bon retour que tu fais. C'est un conseil que tu donnes, effectivement. Moi, je ne multiplie pas. Par contre, j'en fais. Bien sûr, je parle, mais je n'ai pas besoin. Tu vois, typiquement, les restaurateurs, j'ai dû faire 7 ou 8 interviews, pas 300. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que tu as très vite le feedback. Tu n'as pas besoin de t'inonder, de t'auto-persuader que tu as besoin de faire 200, 300 interviews pour vraiment comprendre les aspirations profondes. Le product market fit, c'est un truc à vivre en tant qu'entrepreneur qui est limite la première extase que tu as, quoi. Parce qu'en fait, chez Tease & Swag, j'ai connu le product market fit. Le principe même du product market fit, c'est que tu passes de 100% de no-go à 100% de go du jour au lendemain. Alors, autant te dire que du coup, tu comprends vraiment que tu as ton produit avec Microsoft. Chez Teads, la manière dont ça s'est passé, on avait ce concept de base de se dire on va aider les éditeurs de presse à monétiser leur contenu non vidéo avec de la vidéo publicitaire. Ça, c'était le premier concept de base. Mais du coup, il y a différents formats publicitaires, plus ou moins intrusifs, qu'on peut mettre en place, etc.
Tu parles par exemple de la pub qui arrive en début de contenu, la pub au milieu de contenu, la pub à la fin du contenu.
Par exemple, il y avait même des pubs plein écran, etc. Et donc nous, typiquement, notre premier format publicitaire, c'était un format plein écran, vidéo, obligatoire à regarder pendant 30 secondes minimum. Et à la fin de la vidéo, il fallait que tu cliques sur un lien et tu étais redirigé sur le site de l'annonceur. Donc on est en intrusivité la plus totale, d'accord ? Mais par contre, ça rémunérait bien les éditeurs. Sauf qu'en fait, on allait voir toute la place, hein. Tous les éditeurs les plus connus et même les moins connus. Bref, là, pour le coup, on était vraiment en process de vendre notre produit. Et ben, je crois que ce format-là, on a réussi à le vendre sur une quarantaine d'éditeurs et qui le mettaient que dans des parties hyper obscures de leur site. Bref, on n'avait pas de volume. Donc, on galérait.
Tu le vis comment, ça ? De galérer à ce moment-là ?
Ben, mal, parce qu'on voit bien qu'en fait, là, il n'y a pas de croissance. On voit bien que les discussions sont poussives avec les éditeurs. Quand on arrive à mettre en place le format, les éditeurs sont mal à l'aise parce qu'en fait, ils ont des mauvais retours de leurs lecteurs. Et donc, on se rend compte qu'en fait, pour qu'un produit fonctionne, il faut qu'on aligne les intérêts de toutes les parties prenantes. Dès l'instant où, en fait, t'as deux ou trois parties prenantes et que t'en as une des trois...
C'est pas bien.
Ben, tu sais que c'est pas scalable, tu sais que ton product market fit, tu l'auras jamais, quoi. Et donc, dans le monde de la publicité, il y a trois parties prenantes. Il y a le monde des éditeurs, il y a le monde des annonceurs et les internautes.
Donc, pour donner un exemple, YouTube, la marque et le spectateur.
Exactement. Donc, ils vont essayer de générer le plus de revenus possible. Donc, voilà. Sauf que s'ils vous mettent trop de pubs, ça va embêter les internautes. Donc, les internautes vont moins venir, etc. etc. Donc, il y a quand même un bon équilibre à trouver d'intrusivité. En discutant avec des éditeurs, on a trouvé le format qui nous paraissait être le plus parfait. Parce que non seulement, au lieu d'être planqué dans certaines pages du site, là, en mettant un format publicitaire en dessous, entre deux paragraphes d'un article, avec une vidéo qui se joue sans son, par défaut, on arrivait à toucher les plus grands éditeurs de la planète, à mettre le format sur toutes leurs pages sans que ça soit mal vécu par les utilisateurs. Et vu qu'on arrivait à mettre le format sur toutes les pages, ils arrivaient à générer beaucoup de revenus, ce qui faisait du coup les affaires des annonceurs qui étaient du coup visibles.
Et ça se passe comment, la révélation de ce truc-là ?
Eh bien, c'est suite à des discussions...
C'est le client qui te dit « mais vous pourriez faire ça », c'est toi qui dis...
Ouais, c'est ça. Alors là, c'est vraiment une forme de brainstorm avec les éditeurs. Forcément, on va voir les éditeurs, on leur dit « mettez le format sur plus de pages, parce que ça génère plus de revenus ». Ils disent « mais c'est pas possible, en fait, parce qu'en fait, moi, du coup, j'ai mes internautes qui partent et qui reviennent plus. Donc, en fait, vous ne pouvez pas. Donc, trouver le bon équilibre, voilà. Et c'est là où on a commencé à trouver, et le format a été trouvé, mais là, pareil, on a fait un petit déjeuner avec une trentaine d'acteurs de la place, tous les médias les plus connus. À la fin de ce petit déjeuner, tout le monde le prenait. Et c'est ça que j'appelle un product market fit, parce que du coup, tu passes de 100% de no-go à 100% de go d'un coup.
Et ça, c'est comment de vivre ça ? Le premier, c'était comment ?
C'est magnifique, parce que là, tu te dis, le champ des possibles devient ouvert. Parce que du coup, ça veut dire que ça t'ouvre toutes les possibilités d'expansion à l'international. On s'est rendu compte que ce format publicitaire-là, il n'existait pas à l'international. Donc, autant te dire qu'on arrivait avec l'expérience française, quand tu vas aux US, en Angleterre, en Espagne, en Italie, tu vas avoir tous les équivalents du Monde, du Figaro, de l'Équipe, etc. Mais dans les autres pays, et t'as exactement le même accueil, parce qu'en fait, t'es le premier à avoir trouvé un angle d'attaque qui aligne les intérêts de tout le monde. Et ben, du coup, ça donnait Teads, quoi. Donc ça a donné un acteur mondial, voilà. Tu vois, le marché, il aime pas faire rentrer un carré dans un rond, quoi.
Est-ce que tu penses que dans toutes les industries, on peut avoir ce product market fit qui est aussi flagrant, c'est-à-dire du 30 oui, pour reprendre l'exemple, tu penses que les entrepreneurs qui nous regarderaient, écouteraient, qui n'en sont pas là, ils peuvent à un moment donné atteindre ce niveau d'évidence pour le client ?
À tout produit, il y a forcément des petites frictions qui demandent juste à être résolues de manière simple. Et je ne dis pas que tout le monde va le trouver, hein, c'est le principe, sinon ce serait trop facile. Mais ce qui est sûr, c'est que les frictions, elles sont faites pour être enlevées. Et que dès qu'elles sont enlevées, alors vous avez la capacité d'avoir un truc scalable.
Et tu disais tout à l'heure qu'il y a un vrai framework, être attentif aux problèmes, Comment tu tries dans tous les problèmes qu'a un client?
Je sais pas, parce qu'il s'avère que dans les deux aventures, autant Tids que Swile, c'était flagrant. Nous, on a un problème d'intrusivité. Donc, on veut des revenus, mais il faut que ton truc soit pas intrusif. Il faut craquer cette équation-là. Swile, le premier feedback, c'était on veut plus de revenus, mais il faut qu'on paye en tickets resto digitaux. Ah ouais, mais bon, les tickets resto, ils sont papier. Donc là, il y avait en fait le gros problème à résoudre. Et tu vois, tout ça, c'est arrivé à la fois chez Tids ou chez Swile, hyper tôt dans l'aventure. Donc en fait, la réalité, c'est que les problèmes, si tu les écoutes, les gens te les disent. Alors avec leurs propres mots, tout ce que tu veux, mais en tout cas, ils sont dits, ils sont énoncés, les problèmes.
Pour des boîtes, alors tu as peut-être moins de... Pour des boîtes très, très B2C qui touchent massivement, il y a plein de boîtes qui utilisent des sondages. Est-ce que tu conseillerais de ne pas aller qu'au sondage et de prendre le téléphone et d'appeler des clients
pour... Des sondages pour...
Par exemple, pour justement, des sondages, c'est quoi vos problèmes? Qu'est-ce que vous rencontrez comme...
Non. T'as pas besoin d'avoir 1000 répondants pour comprendre le problème qui se pose sur le marché. Hein. Mmh. N'importe lequel, hein. On peut prendre n'importe quelle industrie en quelques conversations de qualité, t'as le feedback.
Un truc qui, moi, me fascine, c'est que recruter, en tout cas dans ma perception, et j'ai l'impression dans la perception de beaucoup d'entrepreneurs, c'est quand même un truc hyper important pour la croissance de ta boîte. Et loin d'être facile, t'as créé une belle équipe, t'as Tids qui se développe, et tu vas devoir recommencer. En plus, les gens, tu crées des relations, t'as des pépites avec toi dans Tids, t'as construit la meilleure équipe de basket, tu gagnes la NBA, et là, tu te dis, je recommence. Je vais me retrouver un prochain Michael Jordan. Raconte-moi ce truc-là, parce que c'est quelque chose, quand même.
Déjà, j'avais pas le choix. Au moment de la vente, je décide de partir, donc du coup... bien évidemment, j'ai des clauses de non-concurrence qui de fait m'empêchent de ne serait-ce qu'imaginer collaborer avec les petites pépites, comme tu dis. Donc déjà, ça te met dans un mindset où effectivement, tu repars de zéro et tu te dis, des talents, il y en a partout, il n'y a pas de raison qu'on n'en trouve pas. Et la différence d'approche, en revanche, avec Swile, Baptiste, j'étais primo-entrepreneur avec mes cofondateurs qui eux-mêmes étaient primo-entrepreneurs.
Combien d'associés?
On était trois.
Au début, ouais.
Et après, on a fait une fusion avec un groupe qui s'appelle eBuzzing, dirigé par Pierre Chapaz. Et donc, Pierre avait quand même beaucoup plus d'expérience. C'était une des raisons, d'ailleurs, de la fusion, c'est qu'on voulait apprendre beaucoup de son expérience. Bien nous en a pris. Donc, on était 3 plus 3 égale 6. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on était primo-entrepreneurs et qu'il y a bien un truc qu'on n'avait pas mis au centre du sujet au moment de la création, c'était la culture. La culture d'entreprise, c'est... qui nous sommes fondamentalement, qu'est-ce qu'on attend des collaborateurs en termes d'état d'esprit, en termes de comportement, de manière d'arriver à des résultats.
Dis-moi en plus que dans un podcast avec Mathieu Stéphanie, tu en parles de ça, en tout cas tu le survoles. J'aime bien la vibe qui se dégage, très moderne, cette manière de casser un petit peu les codes. Je crois que même votre truc cookie, il a un petit message un petit peu différent de la boîte corpo. Par exemple dans Tids, il se passait quoi qui ne te convenait pas avec du recul?
Déjà, on a mis du temps, par exemple, à définir notre mission. On a mis du temps à définir nos valeurs. Et donc, quand tu ne définis ni ta mission ni tes valeurs, tu as tendance à recruter sur de l'expertise plus que sur des valeurs. Et donc, tu te retrouves avec des experts. En aucun cas, on se permettrait de juger quiconque. Mais en tout cas, la seule chose que tu peux constater, c'est que tu es désaligné sur tes valeurs. Dès l'instant où tu es dans une période d'hypercroissance, et que tu veux piloter la boîte. Et justement, du coup, quand tu combats des acteurs historiques qui sont un peu un gros bateau compliqué à piloter, la seule chose que toi, il faut que tu chérisses, c'est ton agilité. Donc dès l'instant où, dans ton speedboat qui devient quand même de plus en plus gros parce que tu as une hypercroissance, si ton speedboat n'arrive plus à le manœuvrer, en fait, tu n'as même plus ton avantage concurrentiel de base qui est de prendre le marché par l'innovation. Et donc, dès l'instant où tu veux tourner à gauche, et qu'en fait, il y en a encore 10 qui tournent à droite, tu galères. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on est tous non seulement dans le même bateau, mais à ramer exactement dans le même sens, quoi. Et c'est ça que moi, j'ai trouvé flagrant. À un moment donné, au bout de 3 ans, notamment sur tout le pôle technique et innovation, une complexité à piloter et à faire scaler la boîte du fait de courant, en fait, de contre-courant de partout. Ça, c'est le constat, d'accord ? Et ce constat-là, il est fait que, en fait, à la base, au niveau du recrutement, on n'a pas fait attention
à cet aspect-là.
Et je me souviens très bien, moi le premier, quand on recrutait tous nos développeurs, etc., la réalité, c'est qu'on ne regardait que leur expertise.
À côté.
C'est tout. Et c'est là où on a fait des erreurs clés.
Et par exemple, quelles valeurs pour toi sont très importantes auxquelles tu faisais pas attention, par exemple?
L'esprit d'équipe.
L'esprit d'équipe. Mmh.
Je crois pas aux équipes de Galactique, quoi. Je crois beaucoup plus aux équipes, peut-être moins exceptionnelles, mais par contre, collectivement, par contre, tu mets une raclée à n'importe quelle équipe de stars qui... Ben oui, mais bien sûr. Et ça, c'est une philosophie de vie. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de développeurs, typiquement, qui sont dans cet état d'esprit.
Mais surtout que deviennent des stars, les développeurs, en plus, certains.
En fait, de manière générale, la starification, que ça soit un excellent sales, un excellent dev, un excellent tout ce que tu veux, en fait, à quoi ça sert, quoi? À part créer de la crispation, etc., la star, c'est l'équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Il n'y a aucune raison de starifier. Par contre, tu peux accompagner les top talents qui vont peut-être avoir une vitesse de progression plus rapide que d'autres.
Ouais.
Mais voilà.
C'est quoi les bonnes manières de créer une culture de bienveillance où on se dit les choses et on avance?
On a mis beaucoup d'efforts chez Swile. Et pour moi, on n'est pas encore arrivé au résultat optimal. Et parce qu'on a conscience de tout ça. Les recettes et les leçons qu'on a quand même tirées de cet exercice de vraiment être hyper fort et sensible sur ces sujets de feedback. C'est dur de faire un feedback. Parce que justement, comme tu le dis, t'as peur de blesser. Donc déjà, la meilleure façon déjà de faire un feedback, c'est de sensibiliser les gens à aller les chercher.
Que moi, je leur demande.
Typiquement, moi, je vais pas oser te faire un feedback. Mais toi, tu sais que grosso modo, statistiquement, les gens vont pas trop oser t'en faire, donc toi, tu vas aller les chercher, les feedbacks, déjà, première chose. Donc déjà, c'est sensibiliser les gens à montrer leur besoin d'avoir du feedback. Donc c'est une vraie forme d'ouverture, parce que ça veut dire que tu es ouvert, du coup, au feedback. Donc c'est en fait une porte ouverte que tu ouvres à la personne qui, à la base, n'oserait pas trop, parce qu'elle ne sait pas trop si tu es fermé ou pas. À partir du moment où tu montes ton ouverture, c'est pousser la personne à te dire les choses. Donc, elle va commencer par te dire « Ouais, t'es trop bien, j'adore ça. » Et après, tu vas dire « Bon, mais qu'est-ce que je pourrais améliorer ?» Et là, elle va pas trop oser. Et en fait, c'est vraiment pas lâcher le feedback tant que t'as pas deux, trois trucs palpables d'amélioration. Et ensuite, remercier la personne. Et donc, en fait, c'est plus un exercice proactif.
Mais c'est trop bien. Franchement, ça, c'est une putain de pépite. Parce que je trouve que tu retournes cette vision qui est de se dire ben, en fait je veux aider les gens à oser dire du feedback. Bon, déjà je vais l'implémenter, ça c'est sûr.
Ça demande un courage, mais au moins c'est le courage de l'ouverture.
Oh, mais c'est beaucoup plus facile parce que ça m'appartient à moi.
Ben oui.
C'est moi qui fais une demande pour moi-même.
Ouais.
C'est à moi de travailler sur mon ego si ça me blesse.
C'est ça.
Alors que quand je le dis à l'autre, ben, je ne peux pas gérer ce qui va vivre.
Voilà, parce que je ne sais pas s'il est prêt à l'accepter ou pas, à l'entendre ou pas.
Comment vous aidez les équipes à intégrer ça fait partie de l'onboarding.
Alors nous, on a des sessions d'onboarding tous les mois. On onboard par promo parce qu'on recrute quand même 20 personnes par mois.
Waouh.
Donc c'est quand même plus simple pour nous de vraiment faire des promos.
Tu fais un speech
Oui, bah, c'est même 3 jours.
Tu fais 3 jours?
Pas
tous
moi, mais par contre, on a un vrai programme d'onboarding, en fait. Du coup, j'introduis l'onboarding, mais ensuite, pendant 3 jours, on a différents ateliers. Et parmi les ateliers, le premier atelier d'équipe, c'est un atelier feedback.
Qui marche comment, par exemple?
Y a une formation sur le feedback pour déjà faire prendre conscience à tous les nouveaux arrivants de l'importance du feedback. Donc, il y a 2 heures dédiées à ça. Donc, tu vois, donc quand même très, très vite dans ton arrivée chez Swile, il y a ce sujet du feedback. Après, on n'est pas dupes, justement, dans le sens où si tu n'as pas, toi, ce réflexe d'ouverture, tu vas... Voilà. Mais c'est direct changer de braquet, de mindset. On est là, voilà. Donc, on parle beaucoup des valeurs.
Dans le reste de ma vie dans Swile,
voilà. Ça va revenir. Et après, on a nos rituels. Et les rituels, c'est du 360 feedback ou du 180 feedback. Et là, on a testé pas mal de choses. Et typiquement, il y a un truc qui n'a pas marché, c'est qu'on a fait on a commencé les 360 feedbacks par de l'écrit.
Confidentiel ou enfin anonyme ou...
Pas anonyme, parce que le principe, c'est justement de s'ouvrir. Par contre, c'est disclosé qu'au moment où tout le monde a répondu. Mais en fait, c'est une mauvaise idée.
Pourquoi?
Pour 2 raisons. La première raison, c'est que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise à l'écrit.
À recevoir ou à écrire?
À écrire. La différence entre l'écrit et l'oral, c'est que à l'oral, je te fais passer une intention, une intonation. Tu tu vas pas bugger sur un mot parce qu'en fait j'en aurais dit 14 autres autour et donc l'un dans l'autre
oui,
voilà.
Tu peux calibrer le non-verbal.
Et en plus de ça, si jamais tu bugs toi sur un mot, tu vas de suite me reprendre et là je te dis non mais c'est pas exactement ça, c'est plutôt ça, voilà. Donc en fait on discute quoi, donc on calibre en permanence l'échange et le feedback. Un, il y a des gens qui sont déjà de base mal à l'aise avec l'écrit, et deux, quand l'exercice est fait, vu qu'il est fait en asynchrone, eh ben tu te prends toi l'écrit. Ouais. Et tu bugs sur le mot, tu dis qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est pas du tout ce que l'autre voulait dire. C'est source d'interprétation et du coup, l'exercice de base qui est d'être dans la positivité et d'aider, trop souvent se transforme en incompréhension. Ce qu'on a fait, ce qu'on a changé, c'est que maintenant, on demande aux personnes quand même d'écrire, comme ça, ça permet de structurer. On fait le feedback à l'oral en mode discussion.
Ok. Pendant combien de temps ?
Une heure à peu près.
Ok.
Enfin, le temps qu'il faut, mais maximum une heure. Et ensuite, on envoie l'écrit. Alors, tu peux un peu l'affiner en fonction de machin. Mais grosso modo, 95% de ta trame, tu vas quand même l'envoyer. Mais parce que la personne, quand tu vas l'envoyer, c'est plus pour garder une trace, quand tu dois te reposer dessus, pour repenser à des choses, etc. Et du coup, il n'y a plus cette malinterprétation. Parce qu'en fait, t'as eu la discussion, donc tu vois très bien la personne dans quel état d'esprit elle est.
Et t'as qui ? Donc t'as un manager, un pair, c'est trois personnes ou c'est plus ?
Jusqu'à cinq, ça fait jusqu'à cinq.
Jusqu'à cinq, et tu le fais aussi ?
Ah oui, et c'est là où je me suis rendu compte en fait que déjà moi, typiquement, je faisais partie des gens qui n'étaient pas à l'aise avec l'exercice écrit. Et je sais que typiquement les développeurs, parce qu'on a eu beaucoup de retours des développeurs qui n'avaient pas fait l'exercice, pas parce qu'ils le voulaient pas, mais parce qu'ils se retrouvaient un peu démunis face à l'exercice.
Ouais.
C'est là où on a compris que l'exercice de l'écrit, en fait, peu importe ton mindset, il y a trop de chances que ça plaise pas. Quoi. Voilà. Mmh. Et donc moi, j'ai fait les feedbacks à l'oral et ensuite avec le petit écrit. Du coup, ça marche hyper bien.
Trop bien. Et ça, vous le faites tous les combien de temps ?
Tous les 6 mois.
Ok. Tous les 6 mois, tu fais
360.
Tout le monde.
Ouais.
Waouh, c'est génial.
Et dernier truc qu'on a appris, c'est que justement, on avait mal calibré, il y a certaines personnes qui étaient trop sollicitées.
Ah, parce que c'est moi qui choisis qui
et oui, et donc du coup, le problème, c'est que les premières sessions qu'on a faites, il y a certaines personnes qui étaient sollicitées 12 fois, quoi. Donc on a dit, non, mais c'est pas possible. Donc là, on a calibré ça aussi pour donner bien l'envie en se disant, de toute façon, tous les 6 mois, tu vas être sollicité sur 3-4 feedbacks. Ça, c'est bon, ça suffit, tu vois, tu peux prendre, c'est même un cadeau. Donc tu prends 3-4 heures bien faire tous les 6 mois tes feedbacks.
Et il y a un framework qui est donné à la personne qui va faire un feedback pour l'aider à qu'est-ce qu'elle assesse ?
Ben oui, mais ça c'est facile, ça, c'est des petits questionnaires.
D'accord, donc tu as un petit questionnaire pour t'aider à te guider dans
complètement.
Sur quoi faire le feedback. Et dans ce questionnaire, est-ce qu'il y a une partie qui est liée aux valeurs ?
150%, oui.
Ok, c'est quasiment que ça.
Non, tu as les hard skills et les soft skills.
Ok.
Mais bien évidemment, les valeurs, c'est central, hyper central.
Réactualise-moi sur la mission de Swile, du coup, telle qu'elle est aujourd'hui.
La mission de Swile, c'est vraiment de créer un monde du travail épanouissant. Donc, c'est vraiment aider les sociétés à bâtir des cultures positives et leur donner les moyens de créer une expérience employée que les employés aimeront. Quoi. On a deux outils principaux. Le premier, c'est la Swile Card, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, qui est la carte employée que tu reçois en tant qu'employé quand tu arrives dans la boîte et qui te permet de gérer tous tes avantages salariés. Et puis, on a la super app des employés qui te permet vraiment de travailler tes différents drivers d'engagement en tant qu'employé. Donc, on a tout un tas de fonctionnalités dédiées à la cohésion des équipes, à renforcer la considération aussi, la reconnaissance, mais aussi des outils dédiés à créer des challenges aussi quand typiquement une société a envie, de réduire ses émissions de carbone. Eh bien, on va essayer d'avoir un objectif commun. Et bien là, on a un outil pour mesurer le niveau d'atteinte des objectifs des uns et des autres.
Vous allez utiliser un peu des outils comme OKR au sein de Swile, du coup ?
Au sein de Swile, on va avoir tout un tas d'outils permettant aux directions RH ou générales de mesurer le pouls des entreprises, de simplifier les relations entre les managers et les managers, typiquement. Le point spécifique des OKR, on n'y croit pas trop, dans le
et
sens où ça apporte beaucoup souvent de complexité. C'est un peu comme l'agilité. L'agilité by the book, c'est pas la panacée. Le OKR by the book, c'est à peu près pareil. On trouve ça trop compliqué.
Qu'est-ce que t'aimes dans cette philosophie OKR que vous utilisez avec des variantes et qu'est-ce que tu n'aimes pas et qui pour toi, justement, tel que c'est dans le bouquin, c'est pas bon.
Ce qu'on aime, c'est partir quand même d'un truc très high level que tout le monde doit avoir en tête. Les indicateurs vraiment que 100% de la boîte doit comprendre et mesurer en permanence.
Chez vous, c'est quoi par exemple ?
Ça va être ton niveau de revenu ou typiquement quand on lance un nouveau pays, s'assurer qu'on soit à tel niveau d'achievement dans les 6 mois ou dans les 1 an. Quoi. Voilà, okay. Y a des points de passage.
Là, c'est l'équivalent objectif dans le cœur.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Et le problème, c'est que plus t'es nombreux,
plus il y a de cascades.
Plus il y a de cascades. Donc plus c'est dur et long à faire. Et plus, mine de rien, ça rajoute un peu de rigidité parce que très souvent, t'as quand même besoin d'agilité. Les objectifs peuvent quand même changer. Alors, l'enjeu, c'est pas qu'ils changent toutes les semaines. Et le problème, c'est que ton exercice d'OKR, tu peux pas le faire non plus tous les mois. Déjà, quand tu le fais tous les trimestres, ça commence à être important. Et le problème, c'est que si tu fais qu'une fois par an, c'est pas assez. Donc en fait, t'as un peu quand même cette complexité d'exercice quand tu commences à être 300, 400, 500 dans la boîte. Je trouve que la cascade est compliquée à faire.
Tu vois, c'est drôle, vu que j'ai batché 12 interviews là en 10 jours, j'ai entendu plein de modèles différents.
D'accord.
De personnes qui font les OKR by the book, aux personnes qui font OKR jusqu'au team, il n'y a pas individuel. Certains qui n'en ont pas du tout.
Ouais,
c'est-à-dire, voilà où on veut aller, vous débrouillez, vous êtes libre.
Ouais.
Certains, c'est les one thing quotidien, one thing hebdo. Là, pour l'instant, je n'arrive pas à voir comment on descend à l'échelle de l'équipe.
En fait, on est vraiment par pôle, nous. Donc, encore une fois, l'innovation, le business, le brand.
Chaque pôle a un objectif.
Voilà.
Au trimestre
Au trimestre. Exactement.
Vous avez rien à l'année ?
Les seuls sujets annuels, c'est que pour les execs.
Mais le pôle, lui, réfléchit au trimestre.
Ouais.
OK.
Les indicateurs, c'est la roadmap.
Ouais.
Pure. Donc, ce qu'on arrive à sortir ou pas sortir. Là, tout le monde est dedans, donc à la fois le produit, le design, les ingénieurs, ils sont tous dans le même bateau, parce qu'on défend le produit, quoi, au global.
Ouais.
Le business, forcément, hyper mesurable, ça en général, c'est les trucs les plus faciles à faire, hein. C'est essentiellement du revenu. Chez nous, le pôle business, c'est 75% de la société.
Et ça se fait plutôt en sales, plutôt que marketing ?
Toute la panoplie, hein. Il y a le CSM, le sales, les account managers, le marketing. Et le customer care.
Ah, tu le comptes dedans ?
Ouais.
D'accord.
Et après, on a du coup le pôle brand, où là, pareil, on est plus sur de la roadmap.
La partie customer care est plus côté business, plus que produit.
Ouais. Dans le customer care, on est essentiellement dans le réactif.
Ouais.
Globalement, hein. Donc, entre guillemets, c'est déjà un peu trop tard. Et bien évidemment, en revanche, côté innovation, on regarde attentivement tout ce qui se passe côté care pour savoir là où il y a des demandes et là où il y a des trous dans la raquette pour pouvoir les prioriser et faire en sorte qu'il n'y en ait plus. On est vraiment drivé par le best support is no support. Donc en fait, on vit chaque demande entrante au customer care comme une forme de trou dans la raquette côté produit, d'une manière ou d'une autre. Hein.
Ouais. Là,
c'est pas du tout forcément un bug, c'est parfois juste un manque de fonctionnalité. Enfin,
un truc à clarifier.
Il y a un truc à clarifier, quoi. Il y a un truc à faire. Quoi. C'est une forme de feedback en fait. On espère que personne n'aura à nous contacter, parce que ça voudra dire qu'on aura fait excellemment bien notre boulot. Alors après, on n'est pas utopiste, puisqu'on évolue beaucoup. Donc du coup, vu qu'on sort en permanence des nouveaux trucs, bah forcément, il y a tout le temps des trucs à affiner. Mais malgré tout, on est quand même convaincu qu'il faut viser le best support is no support. Et en revanche, dès l'instant où on nous contacte, la moindre des choses qu'on doit à nos utilisateurs, c'est de répondre de manière hyper rapide. Et là, du coup, on a une équipe qui est vraiment animée par cette volonté de servir le plus rapidement et le mieux possible nos utilisateurs. Et on est des NPS de malade parce qu'on arrive à répondre sur le chat, et c'est pas des robots, en moins d'une minute. Au téléphone, on a 98% d'appels décrochés en 30 secondes.
Waouh.
Voilà, donc on y a mis les moyens, hein, mais ça marche bien.
T'as envisagé de décentraliser une partie des appels, par exemple ?
C'est ce qu'on fait. On passe par un prestataire très connu qui fait ça très bien en France.
Donc, on a les objectifs au niveau des pôles. L'échelle individuelle, j'ai quoi ? J'ai que ça ? J'ai que le pôle ou j'ai un
non,
truc
non, non. Chaque personne a ses propres objectifs. Donc, au business, c'est mensuel, mais en fait, t'as un rattrapage sur le trimestre. C'est lissé sur le trimestre.
D'accord. Donc,
typiquement, si tu fais pas tes objets un mois, t'as quand même tout le trimestre pour te rattraper.
D'accord, ok.
Les équipes à l'intérieur des pôles sont drivées au trimestre,
okay.
Mais ensuite, c'est saucissonné au niveau mensuel par collaborateur,
okay.
Mais avec ses effets de rattrapage sur le trimestre.
Et je vais avoir un point avec mon manager pour en discuter ou...
Complètement. Tous les mois, y a un suivi des objectifs. Du coup, c'est tout le temps hyper bien vécu parce que bon, déjà, on sait trop qu'il y a des cycles. Si on se focalise sur le business, qui est le gros de notre équipe, aujourd'hui, bien évidemment, il y a des mois où tu vas louper un tout petit peu ton objet, mais du coup, tu sais que le mois d'après, tu vas pouvoir le rattraper. Et l'un dans l'autre, sur le trimestre, tu vas y arriver, etc. etc. Donc, ça reste hyper stimulant, hyper positif.
T'as un CEO aujourd'hui ?
Ouais.
Yeah, c'est un associé ou tu l'as recruté ?
On vient de recruter un CEO qui est en charge de tout le pôle business.
Ok.
Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont ce qu'on appelle des équipes opérations. Nous, on n'a pas d'équipe opération parce qu'en fait, les opérations, elles sont forcément au service de quelque chose. Donc, soit tu es au service du produit, soit tu es au service du business, soit tu es au service des people, soit tu es au service de la finance ou de la brand.
Donc, il y a des gens opérations dans chaque...
Voilà. Et du coup, ils ont un job donné, mais on n'a pas un département
opération. Ça ne serait pas dans la logique de Squad.
Ben oui, dans notre secteur, en tout cas, je ne vois pas du tout l'intérêt du sujet. Les opérations, c'est le genre de job où justement, tu as très souvent du mal à définir le scope de responsabilité. Si tu es organisé par pôle et que chaque pôle a un objectif hyper bien identifié, ben oui, après, tu peux avoir différentes compétences qui viennent servir
ce pôle. Mais du coup, là, le CEO, il est pour un pôle ?
Ouais, business.
Okay.
Il est en charge du business.
Il est en charge du business. Mm. Les heads de pôle, ouais. Ils reportent à qui ?
À moi.
À toi. Mm. Donc, c'est toi, toutes les semaines, à qui on reporte ?
Ouais.
Et t'aimes bien cette partie-là ?
Bah, j'adore, puisque j'adore tous les pôles. Donc, j'ai besoin de m'alimenter. Je déteste les clivages entre département ou pôle, parce que je pense qu'on sert tous un intérêt global. Voilà ce qu'on fait tous ensemble au quotidien. Vu que j'adore tous ces sujets-là, je m'y intéresse sincèrement et je pense qu'on arrive à avoir un truc assez unifié au global, quoi.
Dans l'interview que j'ai faite avec Marc Simoncini, tu vois, il parlait souvent d'un couple assez courant. Je sais plus quels sont ses mots, mais on va dire d'un côté le côté un peu visionnaire. Marc, il se mettrait dans cette case-là, tu vois. La vision, les idées, un peu souvent aussi le produit et un peu la partie marketing sales. Et de l'autre côté, quelqu'un plus DG, opérationnel. Qui drive les équipes, la performance. Toi, t'es les deux, en fait.
Je suis le seul fondateur et je trouve que ça, c'est typiquement une vraie force parce que du coup, il n'y a pas ce vieux truc à gérer des cofondateurs, quoi. Très souvent, quand on rentre à 2, 3, 4 cofondateurs, il y a les cofondateurs d'un côté et il y a les collaborateurs de l'autre. Et puis, grosso modo, rien ne peut se faire sans les cofondateurs. Mais en fait, ben non, parce que les cofondateurs, ils doivent être au service d'une équipe. Et donc, quand tu grandis,
il n'y a plus vraiment cette
distinction. Elle est même gênante. Et c'est là où tu commences à faire des trucs dans tous les sens pour essayer de justifier un truc, mais qui ne marche pas, quoi. Alors que là, dès le premier jour, c'était simple. En fait, grosso modo, je n'avais pas de cofondateur sur qui m'appuyer. Donc, bien évidemment, dès le premier jour, on s'appuie sur tout le monde, en fait. Et au même titre que... donc là, nous, notre CEO, qui s'appelle Grégory Gazan, qui a déjà géré des équipes incroyables chez Criteo, qui a fait toute l'expansion internationale de Criteo. Il avait 1500 personnes sous lui, etc. C'est une personne... absolument exceptionnel, mais au même titre qu'il y a d'autres personnes absolument exceptionnelles sur lesquelles je m'appuie au quotidien, j'ai pas du tout envie de donner l'impression qu'il y a un duo qui se crée, ou un trio, ou un quatuor. On est une équipe, et notre job, c'est justement de s'assurer qu'on travaille ensemble et de mettre une énergie folle à maintenir cet esprit d'équipe. Je trouve qu'avoir ces logiques de duo avec un partage de responsabilités un peu bizarre sur vision, exécution, machin, bidule.
Ça te parle pas, toi ?
Non, pas du tout. Au contraire, c'est même clivant, en fait. Ça silote. Ça crée des silos non nécessaires, quoi.
Et du coup, en tant que solo founder, tu te sens pas seul parfois ?
Non.
Comment t'expliques ça ?
Parce que je suis hyper bien entouré. Je ne vois pas du tout la différence entre... un exec avec qui on passe beaucoup de temps parce qu'on vit la même aventure et un cofondateur.
Ce que certains entrepreneurs décrivent, c'est ce côté qui n'est pas forcément une bonne idée. Ça m'intéresse d'entendre ce que tu penses. C'est plus pour la partie émotionnelle de l'entrepreneur. Tu vois, par exemple, ce matin, un entrepreneur qui disait, ben voilà, quand j'étais pas bien ou quand je suis pas bien, ben je vais appeler mon associé. Il y a une forme, tu vois, de sas, de... dans les moments de stress. En fait, le dilemme qui est souvent exprimé, c'est ce côté, à la fois, j'ai envie... d'être vulnérable à un certain niveau avec mes équipes. De l'autre côté, je ne veux pas leur transmettre mon stress, mes peurs. Et en même temps, je vais avoir besoin de parler à des gens. Toi, ça va se passer comment, du coup ? À qui tu peux parler si tu as besoin de...
Ma femme.
OK.
Voilà. Je pense que je suis assez vulnérable, donc du coup, je n'ai aucun problème à dire les choses avant justement que ça soit trop tard avec mes collaborateurs. Ça ne me parle pas du tout, en fait. Parce que je pense que justement, on sort tellement les trucs en live, en permanence, que le truc n'a pas le temps de germer et de prendre de l'ampleur. Ça se fait de manière hyper naturelle.
Dans un podcast, tu parles qu'entre la première expérience et la deuxième, tu es passé de recruter beaucoup de juniors à recruter beaucoup plus seniors. Tu parles de la décision de « je veux recruter un senior, je veux qu'il soit excellent, je veux qu'il matche avec ma culture ». Ce que je comprends, c'est ces trois paramètres-là. Et puis, dans ce pool-là, on va avoir des... Alors, surtout au niveau tech et growth marketing, des fourchettes de rémunération possibles qui sont délirantes. Comment tu t'évaluais le budget que tu étais prêt à mettre sur une personne ?
Il y a quand même un outil magique qui s'appelle les BSPCE, ou quand même un senior qui accepte de rejoindre un projet naissant, il vient chercher autre chose qu'un salaire. Il va plus être dans une optique d'avoir son salaire minimum pour pas être à risque dans son quotidien, mais il vient chercher autre chose. Il veut faire partie du projet d'une aventure de base. C'est tout. Mais ça, c'est un outil qui est exceptionnel. Évidemment, il y a ces notions de grille à mettre en place, donc de leveling, de différents levels.
Tu bases sur quoi, toi ?
On a un track, donc une ligne manager et une ligne team members. Avec des levels différents, quoi. Donc, et à partir d'un certain niveau, tu as automatiquement des BSPCE. On veut absolument montrer par les faits et par la manière dont on gère que la manière d'être promu chez Swile, typiquement, c'est pas forcément de devenir manager. Typiquement, toi, tu peux rentrer en contributeur individuel et devenir
un expert
qui a une influence bien au-delà même de ton scope d'équipe. Bien au-delà même de Swile, potentiellement. Tu peux même devenir une icône d'industrie, quoi. Les meilleurs contributeurs individuels, c'est le même niveau qu'un VP chez nous, qui sont déjà parmi les postes les plus élevés.
On parle d'un excellent architecte qui manage personne.
Complètement.
Va pouvoir évoluer financièrement à la hauteur que d'un
VP qui est manager de région entière dans le monde, quoi. Il faut chérir ça parce que quand tu grandis fort vite, tu te mets à avoir des enjeux de gestion, de croissance, etc., qui sont justement gérés par ces personnes-là, quoi.
Ce qui m'a été dit justement la semaine dernière par rapport au BSPCE, des entrepreneurs qui m'ont dit, j'ai réalisé que j'ai donné pas mal de BSPCE à mes équipes, mais qu'une grande partie de mes équipes n'arrivait pas à apprécier la valeur de ce truc-là, ouais. Et qui disaient, voilà, pour moi, forcément, c'est une part de ma boîte. Donc, ouais. La valeur, elle est importante parce que c'est ma boîte déjà. Et en plus, j'ai la vision. Donc, j'arrive à imaginer ce que ce truc qui peut paraître tout petit vaut dans le futur. Il racontait cet exemple d'à un moment donné, il veut faire un cadeau à tous ses dirigeants. Ils ont réussi quelque chose. Et en fait, il fait un pack cadeau, on va dire, à tous ses dirigeants avec des BSPCE et dedans un iPad. Et en fait, lui, il est trop content de leur faire ce cadeau-là. Et t'en as plein qui lui disent « Ah putain, merci pour l'iPad. »
Ouais.
Et là, il réalise qu'en fait, il a donné quelque chose qui pour lui était précieux, mais qui n'a pas été apprécié. Alors, il n'en veut pas. Mais c'est quoi en fait ta vision de ça ?
Je crois personnellement pas aux politiques de « on donne des BSPCE à 100% de la boîte
okay. ».
Parce que justement, en fait, c'est la meilleure façon de faire en sorte que le truc soit pas apprécié. En donner à tout le monde, ça veut dire en donner moins à tout le monde.
Ouais.
Tu amplifies le phénomène de
banalité.
Voilà. Les BSPCE doivent être une conséquence d'un travail excellent.
Donc tu l'as pas quand tu démarres ?
Alors, sur les postes très élevés, tu l'auras parce que ça fait partie du package.
Okay.
Parce que justement, tu fais en sorte que les postes clés que tu recrutes, les personnes viennent pour le projet et pas juste pour du salaire. Tu t'assures juste qu'ils soient pas en insécurité dans leur quotidien, mais bien évidemment, ils viennent pour autre chose. Mais en revanche, par contre, quand tu rentres contributeur individuel ou manager premier niveau, tu as quand même tout ton plan de carrière. Donc tu montes et l'idée, c'est qu'on t'amène à ça. Et en fait, quand tu changes de level, à partir d'un certain level, boum, ça déclenche des BSPCE. Et du coup, là, tu comprends vraiment que tu as déclenché quelque chose. Et en plus de ça, vu qu'il y en a moins qui en ont, tu en reçois un peu plus.
Ouais.
Et donc, tu apprécies d'autant plus le geste.
Moi, je n'ai pas encore fait le pas de donner des BSPCE. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'attire. Où est-ce qu'on peut apprendre typiquement ? Qu'est-ce qui est juste ? Enfin, en fait, c'est vraiment l'univers que je découvre via les interviews. C'est quoi les ressources pour arriver à bien comprendre la bonne manière de procéder ? Est-ce qu'on ne va pas donner 10%, je dis n'importe quoi. J'imagine qu'il y a des modèles qui existent, qui facilitent.
Les grandes tendances, quand tu regardes les boîtes du Next40, tu as environ, pour simplifier, hein, d'accord ? Tu as à peu près 10% qui sont... dédié au management, au global.
Au global, ok. Est-ce que tu as un livre préféré, business déjà?
J'ai beaucoup aimé Dream Team.
Un bouquin sur le recrutement, je crois.
Ouais, justement.
Ouais, je l'ai lu. Ouais.
J'ai beaucoup aimé l'approche parce que justement, ça me fatigue les bouquins un peu américains, là.
Pourquoi?
Ça ne dit pas grand-chose. Et là, j'ai trouvé les propos hyper pragmatiques. Donc, si on veut palper des choses concrètes, je le recommande.
Est-ce que tu as un film ou un documentaire préféré?
Là, c'est hyper actuel. Ce n'est pas préféré, c'est plus top of mind. Okay. C'est justement le documentaire Netflix sur Michael Jordan.
The Last Dance.
The Last Dance. Parce que c'est typiquement ce que j'aimerais pas qu'on fasse avec Soil. La culture de l'individualité à son paroxysme, où il est avant tout là pour sécuriser sa carrière perso. Et j'ai vu des comportements que je trouve pas sains, quoi. Son objectif, c'est absolument d'être champion. Et donc, du coup, il va se comporter en leader un peu tyrannique. Il y a différentes manières d'arriver au même résultat.
C'est pas celle qui t'inspire.
J'ai pas envie de prendre celle-là.
C'est quoi un des meilleurs conseils business qu'on t'ait donné, par exemple, d'investisseur ou d'amis?
Le meilleur conseil business, c'est de décider vite, quitte à te planter. Le coût de la réflexion, pareil, hein, c'est pas sur une décision que ça se joue. Mais sur la vie d'une boîte, en fait, si à chaque décision que tu as à prendre, tu prends le temps, mais en fait, tu prends juste le temps pour tout et donc tu vas moins vite.
T'as une app préférée sur ton téléphone?
La réponse bateau, c'est Swile.
Alors, deux apps préférées.
Je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Regarder toutes les infos marché, notamment.
Et ça veut dire que du coup, c'est sur le fil d'actualité ou tu fais des recherches particulières?
Non, je suis beaucoup sur le fil d'actualité. J'essaie de réagir.
Tu es actif?
J'essaie. Et je pense que je vais essayer d'être de plus en plus. On a quand même des choses à dire et à défendre, je pense.
Et l'objectif, c'est un objectif de brand?
Non, c'est déjà un objectif de transmission, déjà, je trouve.
Tu veux retransmettre?
Ouais.
Pourquoi ce médium-là?
Parce que c'est ça reste quand même la force des réseaux sociaux. C'est quand même, t'arrives à toucher beaucoup de monde si t'arrives à bien gérer le truc. Et puis t'es un peu plus dans l'instantanéité, quoi.
Et donc l'idée, c'est d'écrire des articles?
Notamment, ouais. Notamment. Non, et puis après, il y a un truc un peu plus à froid. Pourquoi pas sur un livre? Sur tout le sujet justement de
culture,
et de l'engagement des collaborateurs.
Trop bien.
Ouais.
Tu dors combien d'heures en moyenne?
6 à 7.
6 à 7, ça te suffit?
Ouais.
C'est quoi un des meilleurs investissements que tu... temps ou argent que t'es mis, que t'es fait dans ta vie, qui t'a beaucoup apporté?
Bah, Tids. Hein.
Investir dans Tids?
Le temps investi, ça a été une expérience incroyable. Soit il en tire le parti grandement, quoi.
T'as 3 enfants, pas mal de collaborateurs. Ouais. Si tu pouvais marquer un message sur soit un papier, soit sur un énorme board, un message qui te tient à cœur, tu marquerais quoi? Que tes enfants pourraient voir dans 20 ans, 30 ans, ou alors même tous tes salariés, peu importe, des gens qui comptent pour toi, t'aimerais leur dire quoi?
On a pris le parti de la thématique de la vie au travail, de l'expérience collaborateur. Tu passes 2/3 de ta vie active dans un contexte de boulot. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Mais si on arrive à faire de ces 66% de ta vie active une fenêtre épanouissante, la vie est courte, donc autant qu'elle serve. Et si on peut essayer de servir une cause un peu globale, j'espère qu'on aura laissé une trace. Et ce, à grande échelle, pas juste sur 4000 employés ou 10 000, mais des dizaines ou centaines de millions. Là, on aura réussi quelque chose. J'espère que du coup, ma femme et mes enfants... qui me soutiennent énormément dans cette aventure, auront toute la reconnaissance qu'ils méritent et voilà, ils seront fiers.
Si tu as aimé ce podcast et ce type de contenu avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a créé une vidéo qui recense les 6 clés indispensables pour scaler ton business.
Donc aujourd'hui, j'ai développé tout un set de techniques pour aider les entrepreneurs que j'accompagne à bien sûr garder la foi, conserver cet optimisme de « je vais y arriver, je peux le faire, j'y crois », mais en même temps, être capable de manière, ce qu'on pourrait appeler un pragmatisme pessimiste ou le pessimiste pragmatique, c'est-à-dire voir les obstacles et les anticiper de manière le plus calme, centrée et stratégique possible. Charlie Munger a ce qu'il appelle la technique de l'inversion. La technique de l'inversion, c'est de faire presque contre-intuitivement l'opposé que de visualiser que ça va bien se passer.
Si tu veux découvrir ces 6 clés contre-intuitives qui vont te permettre de booster ton business, regarde la vidéo gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.